Carnet de région.
Gard,
Aude,
Lozère,
Hérault,
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en langue de Croustillon.
Bienvenue à tous dans votre carnet de région, l'actualité en Languedoc-Roussillon, un magazine hebdomadaire collaboratif entre radios associatives. Cette semaine, Adrien Delgrange de Radio Pays d'Hérault pour vous le présenter. Au sommaire, cette semaine, retour sur les intempéries dans l'Hérault et le Gard avec la venue du ministre de l'Intérieur à Lamalou-les-Bains mercredi. Nous nous intéresserons également à la mission de la Croix-Rouge auprès des sinistrés. C'est la journée mondiale contre la maladie d'Alzheimer. Ce dimanche, la recherche avance, nous dira Claudette Cadenne de France Alzheimer Hérault. Nous nous intéresserons au secteur associatif de l'insertion dans le département du Gard, qui proteste contre des baisses de subventions du Conseil général du Gard. En Lozère, les acteurs culturels se rejoignent pour participer à l'opération La Belle Saison, une opération culturelle en direction de l'enfance et de la jeunesse. De la botte à la toque, nous parlerons d'un concours de cuisine en Lozère pour mettre en valeur des produits locaux. Et puis ce week-end, ce sont les journées européennes du patrimoine avec ce thème patrimoine culturel, patrimoine naturel. Nous nous intéresserons au CRAC de Sète, le centre régional d'art contemporain. Bienvenue à tous dans ce carnet de région enregistré ce vendredi 19 septembre. C'est l'équivalent de plusieurs mois de pluie tombée en seulement quelques heures. C'était mercredi sur le Languedoc, un épisode pluvieux devenu mortel, notamment dans le département de l'Hérault. Au camping de Lamalou-les-Bains, 5 personnes ont perdu la vie, des campeurs emportés dans la nuit par les flots. Le récit du maire de Lamalou-les-Bains, Philippe Taillant, au micro de Radio Lodev.
Ce qui apparaît, c'est qu'en amont de Lamalou, des arbres assez conséquents, jusqu'à des diamètres de 60 cm de diamètre, ont fait un barrage naturel qu'on ne pouvait pas voir parce que l'eau passait par-dessus. À un moment donné, ça claquait parce que je vois tout ce que des personnes ont pu dire au ministre. C'est arrivé en rien de temps, c'est reparti en rien de temps. Ça a duré 10 minutes en tout et pour tout. Et beaucoup de boue, et de l'eau mais beaucoup de boue. Par contre, ce qu'il va falloir tenir compte, et je me suis un peu expliqué, j'ai cherché à comprendre toute la nuit pourquoi le camping, parce qu'on était dans une courbe, ça a été facile à déborder. Moi, je pense qu'en telle courbe, il fallait une digue.
Après ces intempéries, l'heure est à présent au bilan et au nettoyage. Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, est venu mercredi notamment annoncer le prochain classement en état de catastrophe naturelle.
Je suis donc venu dire à toutes ces victimes la solidarité et la compassion de l'État. Je suis venu dire également aux élus que dès mercredi prochain au Conseil des ministres, nous prendrons des dispositions pour que l'état de catastrophe naturelle soit décidé pour les communes qui ont été sinistrées. Je veux également vous indiquer que j'ai demandé à 150 militaires de la Direction Générale de la Sécurité Civile de se rendre dans le département de l'Hérault et du Gard dès ce soir pour compléter les effectifs qui interviennent sur le terrain, ce qui portera à 1000 le nombre de pompiers professionnels et volontaires qui interviennent. Il y a également, comme vous le constatez, la gendarmerie nationale qui est très présente. Ce sont l'ensemble des services de l'État qui sont ici mobilisés pour que la solidarité soit une manière de réconfort pour les victimes. Les victimes, bien entendu, nous sommes avec elles dans la tristesse, dans la peine, dans le chagrin et dans la solidarité.
Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, au micro de Radio Lodève. Alors 150 personnes de ce camping municipal à Lamalou-les-Bains ont été prises en charge et ont été transférées vers une salle municipale de Bédarieux. Des sinistrés pris en charge par la Croix-Rouge. Clément Maragou, directeur de la Croix-Rouge dans l'Hérault, commence par nous dire comment ils se sont répartis les missions avec les pompiers.
Les sapeurs-pompiers ont été essentiellement mobilisés sur le secours et sur le déblaiement. L'association départementale de protection civile s'est concentrée sur l'hébergement d'urgence et le montage de lits. Et la Croix-Rouge française a été particulièrement mandatée sur le soutien sanitaire.
D'accord.
Donc nos médecins, nos infirmières, ainsi que des secouristes en ambulance sont sur les principaux sites à Lamalou et à Bédarieux pour faire face aux différentes difficultés qu'ont rencontrées les 150 impliqués.
Quel est votre travail dans ces cas-là?
Donc dans ces cas-là, nous avons plusieurs missions. La première c'est d'effectuer, de réeffectuer effectuer un tri pour s'assurer qu'on n'ait pas de patients graves, de patients qui soient grabataires ou qui soient lourdement handicapés. C'est le cas sur la Malou-les-Bains, puisqu'on a essentiellement des curistes qui ont été pris en charge. Et donc, on assure un suivi médical ou un suivi paramédical des différents impliqués. Donc, nos équipes ont eu à prodiguer des soins divers, certains un peu lourds, des sutures, des prises en charge un peu lourdes de personnes qui présentaient différents types de malaises, et d'autres prises en charge plus légères sur de la petite bobologie. Nos équipes ont également participé à l'identification des corps aux côtés des impliqués qui étaient sollicités pour identifier des membres de leur famille.
Suite à cet épisode pluvieux de mercredi, des cellules de crise ont également été installées à Anduze et Saint-Hippolyte-du-Fort dans le Gard. C'était le directeur de la Croix-Rouge dans le département de l'Hérault à l'instant, Clément Maragou, joint au téléphone par RPH.
Carnet de région.
Hérault.
Aude,
Gare,
Hérault,
Pyrénées-Orientales,
Gare,
Lozère, Aude.
L'actualité en Languedoc-Roussillon.
C'est la journée mondiale contre la maladie d'Alzheimer ce dimanche, maladie neurodégénérative qui entraîne la perte progressive des fonctions mentales et notamment de la mémoire. Dans l'Hérault, 14 000 personnes sont touchées par cette maladie, mais la recherche avance. C'est ce que nous dit Claudette Cadenne de France Alzheimer Hérault au micro de Romain Bercher d'RCF Maguelone Hérault.
La recherche avance. On peut dire que, contrairement à ces dernières années où on était vraiment dans une période où les choses n'avançaient pas beaucoup, la recherche a l'air d'avancer de façon très significative et des essais sont en cours. À l'heure actuelle, on peut être un petit peu plus optimiste que ces temps derniers et c'est pour nous tous, bien sûr, pour les malades, pour leurs familles, quelque chose qui nous touche profondément. Donc, on espère que dans les prochaines années, les choses vont aller beaucoup plus vite. Alors c'est vrai que pour nous, famille, c'est jamais assez vite, mais bon, ça avance quand même, et donc il y a de quoi être optimiste pour les années à venir. Hein.
Qu'on comprenne bien, Claudette Cadenne, aujourd'hui, qu'est-ce que les personnes atteintes par cette maladie ont le plus besoin dans la vie de tous les jours ?
De mesures d'accompagnement, de structures pour les accompagner, pour leur permettre d'être stimulés et d'être aidés. Les familles ont besoin d'être soutenues parce que cet accompagnement est difficile. Il est difficile à la fois au plan moral, mais il peut être difficile aussi au plan financier parce que pour accéder à toutes les mesures, il en va aussi de l'aspect financier des choses et c'est pas toujours simple pour tout le monde. Voilà. Donc il y a des besoins d'accompagnement, des besoins d'informations, des besoins vraiment de toute nature. Je voudrais quand même être relativisée. C'est vrai qu'au cours des dernières années, il y a eu des évolutions significatives au niveau des différents plans Alzheimer qui se sont succédés. Il faut reconnaître aussi qu'au niveau du département de l'Hérault, en termes de structure, on est quand même à un niveau de dotation qui est relativement intéressant. Si on peut le comparer à d'autres départements, je peux dire que le département de l'Hérault est relativement bien doté, que ce soit en termes de structure d'accompagnement, mais aussi en termes de structure de centre de diagnostic.
Claudette Cadenne de France Alzheimer Hérault, jointe au téléphone par Romain Bercher d'RCF Maguelone Hérault.
Carnet de région, l'actualité en Languedoc-Roussillon.
Le secteur associatif de l'insertion a été secoué au printemps dernier par un mouvement de manifestation face à la baisse de subventions du Conseil général du Gard. Le département a du mal à boucler son budget 2014. Inquiétude donc des associations sur le devenir notamment des allocataires du RSA, allocation de solidarité active dont les postes seraient appelés à disparaître dans le milieu associatif. Bernard Roure, président de l'ASPI à Alès et de TEDAC à la Grand Combe, deux associations d'insertion, fait le point en cette rentrée sur la situation après la baisse des subventions du Conseil général du Gard. Au micro de Cathy Rouvérole de Radio Grille Ouverte.
Moi, je considère que l'abandon de ce marché public, on pouvait le réorganiser, le reprendre comme on voulait, mais l'abandon pur et simple pour des raisons budgétaires, et se défausser sur le pôle emploi dans le cadre de l'accompagnement global, c'est une grave erreur politique. Partout où on va plus être, où les associations ne seront plus, dans les quartiers et dans les cantons, moi j'ai une phrase toute faite parce que je la répète maintenant, et ben c'est le borgne ou les barbus qui vont venir. Nous on n'y sera plus. Et le coût évité, lorsque nous on est présent, le coût évité est 100 fois supérieur à ce que l'économie qui va être faite. En plus, nous, on attaque le procès de licenciement, 4 à 5 postes supprimés. C'est quelque chose qui nous arrache le cœur, puisqu'on travaille dans l'insertion, on travaille des collègues, c'est des gens qui sont engagés. On va encore se battre pour éviter ça. Et le Conseil général nous a demandé de travailler sur des pistes, donc on va peut-être pouvoir rattraper. Je dois reconnaître que depuis quelques semaines, on a un dialogue avec le Conseil général. Il n'y a rien qui aboutit, rien qui est signé, rien qui est décidé. Mais on a un dialogue. Au début, ils nous disaient, on est obligé, contrainte budgétaire, c'était le seul discours. Ce qu'on disait, c'est un peu court, messieurs les élus, vous n'avez pas été élus pour ça. Vous avez été élus pour avoir des idées, pour être imaginatif. Donc au début, le dialogue, c'était un dialogue de sourds. Maintenant, il y a des choses. Alors, on ne sait pas s'il s'agit d'un calcul politique, en attendant les élections à venir. On ne sait pas si c'est une vraie intention. Moi, je crois qu'il y a lorsqu'on a rencontré Damien Allary, il y a eu une prise de conscience. On a vu des gens qui ont vraiment pris conscience des conséquences. Et puis, nos élus n'étaient pas habitués à ce que le monde associatif de l'insertion, qui est souvent politiquement proche d'eux, se rebelle. On a pris des coups sur la tête depuis 10 ans, on prend des coups sur la tête, et on dit rien. On roumègue, mais ça s'arrête là, quoi. Puisque là, on s'est pris en main, et on a manifesté, on est prêt à redescendre dans la rue. Il y a un mouvement qui est prêt, mais comme le Conseil général a bougé un peu les lignes, on attend de voir.
Le témoignage à l'instant de Bernard Roure, président de l'ASPI à Alès et de TEDAC à la Grand Combe, deux associations d'insertion. En Lozère, cette semaine a été officiellement présentée à Mende la Belle Saison, initiée par le ministère de la Culture et de la Communication. La Belle Saison est une opération en direction de l'enfance et de la jeunesse qui recouvre une série de rendez-vous et de manifestations dans toute la France. Pour connaître sa déclinaison en Lozère, Ludovic Terrol de 48 FM s'est rendu à cette présentation.
Pour la première fois, les acteurs culturels lozériens se sont regroupés afin de participer à la Belle Saison. Des acteurs provenant de l'ensemble du département avec le Ciné-Théâtre de Saint-Chély, les Fadarelles de Langogne, la Ligue de l'Enseignement, Fédération des œuvres laïques et les Scènes Croisées, toutes deux à vocation départementale, la Genette Verte à Florac et le Théâtre de la Mauvaise Tête de Marvejols. Alors si chacune des structures a déjà une programmation en direction du jeune public, l'objectif était de travailler ensemble pour programmer 5 temps de réflexion autour des spectacles proposés, par le biais d'ateliers, stages ou encore de débats. Lucille Mathieu, du Ciné-Théâtre de Saint-Chély.
C'était la première fois, on était déjà comme ça, réunis tous ensemble pour réfléchir sur comment mettre en avant tout le travail qu'on fait chacun de notre côté sur le jeune public. Et donc, ça nous a permis aussi d'échanger sur nos points de vue sur le jeune public, et puis ça crée une dynamique, ça, on va avoir des idées autour des spectacles l'un et l'autre, et on espère que ça fait comme une émulsion et que surtout ça se continuera, pas sur cette année, mais sur toutes les saisons à venir.
Et ces temps forts programmés dans le cadre de la Belle Saison serviront notamment à réfléchir sur les spectacles, l'approche du jeune public, la création artistique. Ce sera le cas à Mende avec un débat proposé. Nicolas Trottouin, secrétaire général et délégué culturel de la Ligue de l'Enseignement, Fédération des œuvres laïques de la Lozère.
Alors à Mende, c'est une rencontre débat. Voilà, de façon assez interactive, ça va pas être une grande messe, c'est simplement pour sensibiliser en fait les parents, les éducateurs, les puéricultrices, les assistantes maternelles, tous les gens qui œuvrent auprès du jeune public de l'importance de la découverte de l'art et des œuvres sur le jeune public et les familles. Et que cet accompagnement, c'est la fabrication des citoyens, que c'est indispensable.
Et on peut se questionner sur les différences entre les créations de spectacles jeunes publics et spectacles adultes. Finalement, le processus de création est-il différent ? La réponse de Thierry Arnal, directeur du Théâtre de la Mauvaise Tête de Marvejols.
Alors pour moi, ça ne doit pas être différent. C'est simplement qu'on ne peut pas présenter des fois tel spectacle à telle tranche d'âge, pour X raisons, par rapport à l'écriture, par rapport à ce qui est montré sur le plateau. Mais pour moi, le processus de création, il est le même. Et il y a beaucoup, beaucoup de compagnies que l'on reçoit, qu'on classe en jeune public, qui travaillent d'abord sur un projet et après ils se disent, ben voilà, ce spectacle, on peut le présenter à partir de tel âge. Mais il n'y a pas une façon pour moi de travailler spécialement sur du jeune public.
Et pour l'occasion, un site internet a été spécialement mis en ligne. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur labelsaison48, tout attaché en minuscule, .fr. C'est pour promouvoir les produits issus de l'élevage que les JA, les jeunes agriculteurs de Lozère, ont organisé un concours culinaire intitulé « De la botte à la toque ». Des participants au concours qui devaient réaliser un plat à base d'agneau avec deux cuissons qui incluent deux autres ingrédients issus du terroir lozérien. Le dessert était réalisé avec du miel et de la châtaigne. Voilà pour l'aspect gustatif. Mardi dernier, les jeunes agriculteurs du département ont récompensé les lycéens du Sacré-Cœur de Saint-Chély-d'Apcher, un lycée hôtelier qui avait collaboré avec eux pour organiser cette journée concours. Monsieur Ribière, le directeur du lycée de Saint-Chély-d'Apcher, au micro de Nathalie Maury de Radio Margeride.
Alors nous, ce qui nous a marqué, c'est la motivation de ces jeunes, le fait qu'ils sont restés un week-end pour mettre en avant les produits agricoles. Je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on mette en avant les produits agricoles. Les produits agricoles, ce sont souvent, on a trop cloisonné les choses. D'un côté, l'agriculture, de l'autre côté, l'artisanat et la restauration. Je crois qu'il faut qu'on travaille dans le même sens que l'agriculture et la sa continuité dans la restauration. Je trouve que c'est tout à fait bien. Surtout quand on voit aujourd'hui les scandales au niveau alimentaire qu'il y a, on est tout à fait dans l'actualité.
Voici maintenant le ressenti de cette journée de la professeure responsable du projet, Madame Favnec.
Alors cette journée, ça a été en fait un grand plaisir et un événement important pour les élèves puisque pour eux, ça leur permettait d'avoir un pied dans le monde professionnel. Et justement, grâce à ces partenaires-là, on peut justement leur montrer au quotidien durant leur cursus scolaire des actions professionnelles comme celle-ci qui mettent en plus en avant les produits du terroir dans notre région qui est un peu enclavée, je dirais. Et donc ça permet justement de pouvoir leur montrer à eux aussi, puisqu'on a des élèves qui viennent de partout, de montrer aussi que chaque terroir a ses richesses.
Au niveau organisation, ça a dû être un sacré travail.
Oui, surtout pour les enseignants qui se sont mis à pied d'œuvre pour organiser cette manifestation et qui ont fait pendant plus de quelques mois, donc sur 2-3 mois, toute l'organisation au niveau de la sélection des produits, comment ils allaient les présenter, les mettre en avant, que ce soit attractif, etc.
Et la récompense aujourd'hui, ça doit vous faire plaisir.
Tout à fait, oui. Effectivement, donc ça nous fait plaisir. Ça fait aussi plaisir aux jeunes de voir que ben, finalement, tout travail est récompensé. Donc effectivement, oui, c'est un grand plaisir pour eux de voir aujourd'hui concrétiser le travail en une récompense financière.
Et justement, cette récompense financière, à quoi va-t-elle servir ?
Alors, on n'a pas trop de projets sur l'utilisation de cette récompense. Ceci étant, ça va être affecté donc à la classe en question qui a réalisé la manifestation et peut-être pour un projet pédagogique ou un voyage pédagogique sur cette classe-là.
Enfin, voici les réactions de deux lycéennes qui ont participé à ce projet, Marlène et Lola.
Alors, c'était une journée très enrichissante. Déjà, c'était pas qu'une journée. On a eu beaucoup de travail avant. Ça nous a soudés même au niveau de notre classe, de l'équipe. Et on a passé un très bon moment avec les professeurs et on était contents parce qu'on a eu un bon retour. Les gens ont apprécié.
On a eu quasiment tous ceux qui étaient sur le stand avaient les mêmes impressions. C'était une très très bonne journée, autant avec les professeurs qu'avec donc, le groupe de la botte à la toque. On a passé un très très bon moment et aussi très enrichissant.
De la botte à la toque, ce concours culinaire en Lozère, c'était un sujet de Nathalie Maury de Radio Margeride.
Carnet de région, l'actualité en Languedoc-Roussillon.
Et puis ce week-end ont lieu les Journées européennes du patrimoine avec ce thème pour l'année 2014, patrimoine culturel, patrimoine naturel. De nombreuses portes ouvertes, parfois exceptionnelles, de nombreuses invitations vers le passé ou parfois tournées vers le futur. Cédric Combé d'RCF Maguelone Hérault nous propose d'aller à 7 au CRAC avec Vanessa Rossignol, responsable de l'accueil et du public, qui nous propose un aperçu des activités liées à ces deux journées. Le CRAC, le Centre Régional d'Art Contemporain, à 7.
Lors de ces journées du patrimoine, le CRAC propose de découvrir ou de redécouvrir donc l'exposition consacrée à Mélico Agnan, qui se déploie donc dans l'intégralité des espaces du centre d'art. Et pour cela, donc, nous proposons une visite guidée à 16h le samedi et le dimanche. Donc, ces visites guidées sont accompagnées donc, d'un médiateur. Évidemment, les personnes peuvent aussi déambuler librement dans l'exposition, donc de 15 15h à 20h. Et nous proposons également pour les familles des cahiers découvertes enfants, donc pour les enfants à partir de 8 ans, et qui permettent donc de découvrir l'exposition en famille avec sous un mode ludique avec ce cahier de découverte.
Oui. Autre chose sur les GEP, Vanessa Rossignol ?
Juste peut-être préciser que les actions qui sont mises en place par le CRAC, donc dans le cadre des Journées du patrimoine, mais également toute l'année, donc ces actions sont gratuites. Donc je pense que c'est un point important aussi pour les personnes qui veulent venir visiter les expositions du CRAC ou bénéficier des différentes actions que nous proposons.
C'était un exemple donc de ces journées européennes du patrimoine avec le CRAC du côté de Sète. Pour en savoir davantage, un site internet également pour connaître toutes ces portes ouvertes, toutes ces invitations, www.journeesdupatrimoine.culture.fr. C'est la fin de ce carnet de région. Merci à vous de l'avoir écouté et rendez-vous dès la semaine prochaine. Bon week-end à toutes et à tous. Retour du soleil sur notre région dimanche.
Carnet de région.
Hérault.
Aude.
Gard.
Hérault.
Pyrénées-Orientales.
Pyrénées-Orientales.
Gard.
Lozère.
Lozère.
Aude.
L'actualité en langue de Roussillon.